N'importe quoi. Eh bien, merci à vous d'être là ce matin, d'être courageux et d'être venu nous écouter. On va vous parler roman historique et vous allez voir qu'on a autour de cette table ronde, de ces tables rondes même, puisqu'il y en a deux, des genres très divers à l'intérieur même de ce vocable de roman historique, des personnalités aussi, des époques. Donc on va pouvoir voyager dans le temps et puis voyager dans les expériences des uns et des autres. Et vous allez voir au fur et à mesure que le roman historique, c'est vraiment quelque chose qui nous fait voyager probablement autant que la fantasy et la science-fiction peuvent le faire, mais évidemment avec des choses totalement différentes. Et on va voir à quel point le réel et la fiction peuvent également se mêler dans les romans que nous avons. Je vais commencer avec Anne Gollon, si c'est possible.
Merci, mais...
Anne, oui. Voilà 60 ans à peu près que Angélique existe.
Bon, excusez-moi, vous parlez...
Je suis là.
Voilà, c'est ça.
Je suis à l'autre bout. Est-ce que vous êtes surprise de la popularité de votre personnage encore aujourd'hui ?
Non, je m'en réjouis, mais non. Étant donné que ça a été traduit dans toutes les langues à peu près, donc ça a été beaucoup lu et on en a parlé, et les générations en ont parlé, mais peut-être elles ont perdu peu à peu l'idée, quelle était l'idée de départ de ce livre. C'était de raconter la vie. Oui. Non, je vais la tenir. Oui. De raconter la vie. Ça m'a pris, j'avais déjà des livres édités, mais je voulais parler de la vie d'une femme. Et puis, l'idée de roman historique me tracassait. Et puis, tout à coup, j'ai eu la révélation comment le roman historique pouvait être un cadre merveilleux pour les histoires d'amour, les histoires, évidemment, de la vie, tout simplement. Et avec un roman historique qui n'est pas tellement connu sous cet angle, mais qui en est un remarquable, c'est « Autant on emporte le vent ». Et là, quand j'ai lu ce livre, tout à coup, j'ai vu que c'était le décor historique qui le portait. Et comment on pouvait encadrer la vie avec toutes les batailles, et voilà. Donc, voilà, pour moi, le bon départ pour le roman historique. Vous voyez ?
Ben, je vais continuer. En suivant, Olivier Barthe-Cabusson, comment êtes-vous arrivé au roman historique, vous ? Est-ce que c'est là aussi un objet qui vous intéressait ? C'est une curiosité
c'est
personnelle ?
À partir de...
On va revenir vers vous, hein, ne vous inquiétez pas.
Pardon, est-ce que vous pouvez...
Pourquoi vous choisissez un contexte historique pour écrire ? Parce que finalement, le polar, ça pourrait être un polar contemporain.
Oui.
Vous voyez, dans le temps, dans le porte-voix, c'est une traduction.
Mais bon, c'est ton voisin.
Je sais. Mais je réponds encore à monsieur ou madame. C'était une traduction et personne n'a pensé que c'était un roman historique. Mais c'en était un. C'était la guerre de sécession en Amérique. Pour nous, les Européens, c'était un roman historique. C'est pour ça que je le situe. Et là, j'ai eu la révélation que c'était un cadre pour raconter toute la vie intéressante. Et c'est ça qui soutenait un roman pour le public. Bon, je le laisse à...
En fait, vous pouvez vous en aller, je vais continuer à interviewer Anne. Alors le roman historique, déjà moi je me pose une question, c'est à partir de quand on est dans l'histoire ?
Voilà une bonne question.
Est-ce que si je fais un roman en 1999, on appelle ça un roman historique ? Ou bien est-ce qu'il faut remonter en 68 à la Seconde Guerre mondiale ? C'est quelque chose qui m'interroge. Est-ce que c'est une période finalement où on n'a plus de survivants, une période révolue ? Je ne sais pas. Je pense que Anne a raison. Il y a, à travers la réponse d'Anne, je ressentais des choses comme l'intemporalité de beaucoup de thèmes, l'amour, la passion, la trahison, la jalousie, les crimes, les châtiments, etc. Se projeter dans une époque, hein, finalement, c'est garder l'intemporalité de ces thèmes depuis les temps bibliques. Comment je suis venu au roman historique? Je pense par passion de l'histoire au départ. Bon, cela dit, j'écris aussi du contemporain, bon, que je publie pas pour le moment, mais je pense que ça va arriver. Après, dans la manière d'appréhender l'histoire, je pense qu'il y a à peu près deux façons de voir les choses. Hein. On peut avoir une vision de l'histoire qui est hegelienne. L'histoire a un sens, l'homme apprend et tire des leçons de celle-ci. Bon, c'est, ou bien une vision shakespearienne, l'histoire est bruit et fureur. Je pense qu'on est plutôt... de mon opinion, on est plutôt dans cette seconde version de l'histoire, cette seconde vision.
Alors on y reviendra parce qu'effectivement, ça pourrait être du roman contemporain, c'est vrai, mais le contexte historique a une place tellement importante dans vos romans qu'on en dira un mot. Henriette Chardac, là encore, on va avoir un aspect différent du roman historique. Vous allez me dire si je me trompe, c'est possible, hein. Mais quand on regarde un peu votre bibliographie, on se rend compte que ce sont des personnages, vous, qui vous inspirent. Quand je dis personnages, pas des personnages de fiction, mais des personnalités ayant réellement existé.
Ah non, vous ne vous trompez pas du tout, mais je vais vous raconter le déclic et le rôle de ma banque. Je travaillais...
On ne les remerciera jamais assez.
Non, mais effectivement, en ce qui me concerne, c'est assez miraculeux. Je travaillais à France 2 comme journaliste réalisatrice, donc je suis amenée à faire des enquêtes et des films. Et un jour, je vais faire un film en Bourgogne. Quelqu'un a un télescope. C'est un 1er avril, nuit de pleine lune. Je suis d'une impolitesse crasse. Je regarde dans le télescope. Je voyage au-dessus des cratères. Et tout d'un coup, la lune se décroche. Ce n'était que le propriétaire qui passait devant. Et je me rends compte que je connais mieux mon plan de métro que... la place de Mercure, Mars, etc., Pluton, autour du Soleil. Donc, je lis des livres d'astronomie, de vulgarisation, et je tombe sur Kepler. Et je me dis, Kepler, myope comme une taupe, invente la possibilité au XVIe siècle d'aller sur la Lune et sur Mars. Quel bonhomme! Donc, je cherche désespérément une biographie dans toutes les langues, la langue allemande, puisqu'il était allemand, en anglais, en français, et je tombe sur les somnambules d'Arthur Koestler et basta. Donc je vais voir ma banque, on y arrive, et je leur dis, voilà, je voulais acheter un livre, je ne l'ai pas trouvé, je vais l'écrire. Ils m'ont dit, vous avez un éditeur? J'ai dit non, je veux d'abord faire le livre, je ne vais quand même pas vendre quelque chose qui n'est pas fait. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'édition.
Oui, j'allais dire qu'il y a d'autres personnes qui ont moins de scrupules que vous.
Ils m'ont dit, écoutez, vous nous avez fait le même coup avec un court-métrage et vous avez été sélectionné à Cannes. Donc, on vous assure le gîte et le couvert, c'est-à-dire électricité, loyer. Pour ce qui est de la nourriture, vous ferez des petits boulots, caissière, ce que vous voulez, mais on vous assure 12 mois pour faire votre enquête. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivain, c'est-à-dire que je me considère comme une réalisatrice avec des films de papier, et je suis venue à l'écriture parce que je n'ai pas trouvé le livre que je cherchais.
Mathieu Dénin, on vous retrouve après 3 années d'absence à Épinal. Vous avez... 2 années, oui. Et on vous avait connu avec Saltarello. Vous nous revenez avec un autre roman qui s'appelle Ming Mystique. On n'expliquera pas le titre, je vous préviens d'avance. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, il faut lire le livre. Et on est, cette fois-ci, Saltarello était une traversée du XIVe siècle à Paris. Cette fois-ci, on est du côté de Douai. Et on est tout début du XVe siècle. Donc on est dans une continuité, finalement, avec vous. Comment êtes-vous venu, vous aussi, au roman historique? Et puis pourquoi cette période vous fascine-t-elle?
Alors, ce roman-là en particulier, et là encore une fois aussi, je vais rejoindre un petit peu le début de cette table ronde avec Anne Gollon, c'est que moi je voulais faire parler les femmes, en fait, parce que je lis pas mal de romans historiques, et spécialement au Moyen-Âge, je me rends compte qu'en fait les héros sont souvent des hommes, des chevaliers, des hommes puissants, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était de donner la parole à des femmes, et qui, paradoxalement, parce que j'ai placé mon roman dans un béguinage, dans le nord de la France, effectivement à Douai, mais c'était à l'époque les Flandres bourguignonnes, donc qui allaient jusqu'en Belgique. Et les béguinages, aujourd'hui, on peut encore en voir certains, par exemple à Bruges ou même à Amsterdam. C'était des lieux clos, on va dire un peu comme des monastères, mais c'était pas aussi...
Oui, on est effectivement dans un monastère qui ne serait pas rattaché à un ordre.
Voilà, exactement. C'est ça la grande différence entre un béguinage et un monastère, c'est que c'était des femmes très indépendantes et qui ne reconnaissaient pas vraiment une autorité religieuse pour leur organisation.
D'autant que c'est compliqué, puisque à l'époque, on a deux papes.
Absolument.
Qui se tirent un peu la bourre, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont.
Entre Rome et Avignon, c'était vraiment la guerre. Et pour résoudre le conflit, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de faire un concile à Pise, où un troisième pape légitime a été élu et qui est resté pendant 3 ans. Et donc pendant 3 ans, à l'époque donc, de ce roman, il y avait 3 papes.
Donc vous voyez que les contextes historiques souvent nous amènent à des choses assez étonnantes et parfois à découvrir des situations qui relèvent quand même parfois de l'absurdité totale. Béatrice Nicodème, même exercice, même si vous n'êtes pas forcément uniquement une auteure de romans historiques, mais vous en avez fait une série autour de l'époque napoléonienne, hein, si je ne dis pas de bêtises,
oui.
Et puis le dernier en date, Vous ne tuerez pas le printemps, qui nous emmène pendant la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être, tiens, justement, je vais vous faire réagir à ce que disait Olivier Barthe-Cabusson. C'est un roman historique pour vous, ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Oui, vous voulez dire d'une manière générale ou mon roman ?
Votre roman,
oui,
ou d'une
non,
manière
oui,
générale ?
Oui, pour moi c'est un roman historique, oui.
Non, mais parce qu'Olivier a posé la question.
Oui,
donc,
oui.
Alors comment en êtes-vous
venu ? Oui, alors c'est relativement simple. Oui, en fait, au départ, je suis auteur de romans policiers, donc c'est vraiment, j'ai eu envie d'écrire pour écrire des romans policiers. Et puis, par rapport à l'histoire, il faut dire qu'au collège et au lycée, j'étais très très mauvaise en histoire. C'était vraiment la matière là où j'étais la plus mauvaise, avec les sciences nat. Mais je lisais Historia, auquel mes parents étaient abonnés, ce qui prouve bien qu'il y avait quand même un petit problème dans l'enseignement, parce que ça ne paraît pas très logique. Et alors que j'écrivais déjà des romans policiers, je suis tombée un jour en lisant un livre Découverte Gallimard sur le loup, sur un fait divers qui s'était passé pendant la Révolution. Et en lisant ce fait divers au sujet de veneurs de loups, aristocrates qui n'avaient plus le droit de chasser, donc les loups s'étaient multipliés, etc., j'ai eu une idée de roman. Je me suis dit vraiment, il y a un roman là, j'ai une idée. Mais un roman historique, ça me fait un peu peur. Et dans les mêmes moments, le masque chez qui je publiais des romans a créé une collection de romans historiques. Il m'a demandé si j'avais une idée. Voilà, je leur ai exposé mon idée. Ils m'ont dit, ben allez-y. Donc c'était un peu une aventure. Et puis ils m'ont dit aussi, le principe c'est quand même d'écrire une série de plusieurs romans. Donc voilà, je me suis lancée dans une série de plusieurs romans qui commencent en 1794. Et ça a été vraiment, j'ai adoré ça, quoi, ça m'a passionnée, j'ai lu pendant des mois et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, après, je me suis lancée dans d'autres périodes, mais c'est vraiment une formation personnelle, quoi, parce que j'ai jamais été bonne en histoire et c'est vraiment
Et une manière aussi, finalement, de passer l'histoire et justement peut-être aux autres personnes comme vous.
Oui, ce que je n'avais pas aimé dans l'enseignement de l'histoire à l'époque, c'est que pour moi, ce n'était pas des personnes, ce n'était pas vivant, c'était quelque chose d'abstrait. Alors que quand je lisais Historia ou que je lisais des biographies, là, je sentais vraiment les sentiments des gens, leur mentalité, comment ils vivaient les choses. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de savoir comment les gens les ont vécues. Enfin, c'est ce qui me passionne, moi, de savoir comment les gens ont vécu, ont réagi à certaines périodes. Et donc, souvent, évidemment, dans des périodes très fortes et intenses où il se passe des choses très graves, d'où effectivement la Seconde Guerre mondiale. Là.
Anne Gollon, vous nous expliquiez que tout à l'heure, ce qui vous intéressait, c'était de raconter une histoire d'amour avant tout.
J'ai raconté l'histoire d'une femme.
Mais le contexte historique est quand même très important dans Angélique.
Justement, mais l'histoire d'une femme dans une époque, ce que vient de dire madame, c'est qu'en effet, une femme dans une époque... enfin dans son époque.
Il n'est pas allumé, hein, je crois.
Bon, eh bien, elles ont un rôle à jouer. C'est-à-dire, je voulais raconter une histoire. Comme la plupart des héros des livres, même des romans, ce sont des hommes, je voulais vraiment que ça se situe autour de l'histoire d'une femme, depuis son enfance, à travers sa vie, et dans un contexte historique où elle est obligée de prouver qui elle est, de se faire connaître.
Et comment avez-vous choisi cette époque, justement, de la deuxième moitié du XVIIe siècle ?
Ah, ça, c'était une recherche. C'était une recherche parce qu'on utilisait déjà beaucoup la Révolution, on utilisait, je dis, dans les nouvelles, enfin, c'était une ambiance, dans les films aussi, la Révolution, et puis le Moyen-Âge, je retournais toujours un peu sur les mêmes thèmes, et puis, je dis franchement, ce XVIIe siècle, tel qu'on nous l'avait enseigné à l'école, enfin, était très ennuyeux, c'était surprenant, parce qu'il y avait le roi, Louis XIV, qui paraissait intéressant, des restes qui paraissaient aussi intéressants. On nous faisait lire Molière, mais je me disais, qu'est-ce qu'il fait cet homme dans un désert pareil. Donc, ce XVIIe siècle méconnu m'a inspiré. J'ai dit, et si elle en faisait partie c'est entendu, c'est peut-être intéressant. En tout cas, il doit se passer quelque chose. Et donc, j'ai commencé à travailler, un peu comme pour une thèse, et découvrir ce XVIIe siècle, au fond, assez non seulement méconnu, mais très persécuté, je crois, parce que justement, c'était trop brillant. Enfin, voilà. Et j'ai découvert qu'il y avait un décor extraordinaire.
Et vous nous l'avez fait découvrir par là même, et on vous en remercie, parce que c'est vrai qu'on en garde tous, que ce soit à travers les livres ou les films, des souvenirs très particuliers. Donc, on voit effectivement la richesse à la fois historique et du contexte.
C'est les familles qui vivent dans la province, c'est Obro, c'est-à-dire des pauvres nobles. Et donc cette petite fille, à la fois elle est noble, mais elle est pauvre. Et puis après, un jour, elle ira à la cour. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités et de décors autour d'une époque, d'une histoire. Donc historique, c'est un très beau décor que l'histoire. Et nous avons cela.
Olivier Berthe-Cabusson, pourquoi avoir choisi alors une époque très particulière, là encore, que certains connaissent par un autre auteur qui est Jean-François Parot, puisqu'on est quasiment les mêmes années que le début de la série de Nicolas Le Floch. C'est très différent ce que vous faites par rapport à Nicolas Le Floch. On reviendra sur votre personnage du commissaire aux morts étranges. Et pourquoi avoir choisi justement cette période de la décennie 1750 et du tournant des années 1760?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans l'histoire, ce sont les moments de rupture. Hein, et je pense que le XVIIIe siècle est un grand siècle de rupture, d'évolution très forte et très rapide, qui a sa conclusion dans la Révolution, mais également dans le Premier Empire, on n'en parle pas assez. Intéressant également d'étudier ce qui va amener à cette rupture, à ce moment qu'est la Révolution. Et pour moi, c'est le siècle de Louis XV. Alors on tombe parfois tant au niveau des essayistes que des romanciers dans un certain angélisme historique.
C'est pas le cas.
Pas vraiment.
Vous ne ménagez pas. Pour
moi, bon, après hein, j'exprime qu'une opinion, hein, parce que le tort des gens, c'est toujours d'exprimer une opinion en pensant qu'ils expriment la vérité, mais bon, c'est mon opinion. Pour moi, Louis XV est un très mauvais roi. C'est également la légende noire du barbe bleue de l'époque. Hein. C'est un roi sans âme, sans état d'âme et avec des pulsions morbides et autres. C'est un siècle et le règne de Louis XV, donc ce roi détesté va finalement semer les ferments de la Révolution. C'est également une monarchie policière très 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 forte. Parce que Paris est une ville extrêmement dense, peuplée, grouillante, avec plein de courants qui la traversent. Et à travers déjà le quartier Saint-Antoine et autres, on a déjà des ferments de ce qui va être la Révolution. À un moment donné, sous le règne de Louis XV, on trouve, la lieutenant générale de police de l'époque trouve qu'il y a trop d'enfants qui traînent dans les rues. La police les rafle et puis les amène dans des hôpitaux, des hospices, enfin, qui sont des mouroirs, etc. Or, ces enfants qui sont dans les rues de Paris, ce sont des enfants de commerçants et d'artisans, hein, simplement, qui jouent dans la rue parce qu'ils sont livrés eux-mêmes du matin au soir. Et donc, la foule parisienne de ces commerçants, artisans et autres vont marcher vers la maison du lieutenant général de police de l'époque, qui est obligé de s'enfuir en chemise de nuit en sautant par la fenêtre. Et après, ils vont marcher sur Versailles où en chemin ils vont être dispersés par la foule. Donc bien avant la marche de Versailles sous Louis XVI, on a déjà ce Paris pré-révolutionnaire. Donc voilà, c'était une époque vraiment passionnante. Et puis à travers ça, il y a beaucoup de thèmes passionnants dans le XVIIIe siècle. Alors moi, effectivement, bon, j'explore ce côté hors angélisme historique où j'essaye de réintroduire de manière factuelle ce que sont les gens, l'aristocratie de l'époque, mais également d'explorer la part d'ombre du siècle des Lumières. Et cette part d'ombre, c'est un siècle extrêmement superstitieux. Les Lumières n'ont pas touché encore beaucoup de personnes. Elles ont beaucoup touché finalement dans les siècles suivants. Mais à l'époque, bon, quand les encyclopédistes lancent une souscription, ils ont 500 personnes qui souscrivent pour acheter le prochain exemplaire de l'encyclopédie. Donc on n'a pas quand même des idées qui se répandent comme ça à profusion dans la population,
quel que soit le niveau. Autour de l'alchimie, par exemple, qui réapparaît à cette époque-là.
Oui, donc c'est pour ça, dans mon premier Casanova et la femme sans visage, j'explore le monde de l'alchimie, le grand œuvre, la fameuse personnalité du comte de Saint-Germain, était-il immortel ? Toute cette croyance, cette superstition, et je dirais, bon, on retrouve beaucoup dans mes trois livres, dans ce Paris de l'époque, l'opposition entre la raison, qui commence seulement à percer, et puis cette opposition avec la foi et la superstition qui fait faire des choses complètement incroyables. Le Paris de Louis XV, il est rempli de faux mages, de sorciers. On vous conseille de planter votre or dans le jardin parce qu'il va pousser pendant la nuit. Et au matin, bah, non seulement il n'a pas poussé, mais il a même disparu. Et voilà comment ça se passe.
Henriette Chardac, vous, c'est pas, on l'a bien dit, ce sont les personnages qui vous intéressent plus. Peut-être pas plus que les époques, mais en tout cas, au moins au départ, c'est l'idée d'un personnage. Comment vous choisissez justement ces personnages ? Parce qu'en plus, quand on regarde les personnes dont vous nous parlez, il y en a certains, on s'attend presque même pas à les trouver. Je pense à Pythagore, par exemple. Comment vous est venue l'idée de raconter la vie de Pythagore ?
Alors voilà, c'est une maladie chez moi.
Vous allez
nous
dire que vous étiez nulle en maths et que...
effectivement, si je vous racontais une anecdote, j'ai eu 2 en maths au bac. Je suis tombée à l'oral sur le calcul de probabilité et j'ai dit, il y a de fortes probabilités que j'ai 0. Et pour ce trait d'esprit, j'ai eu 2. Bon, alors, comment ça s'est passé au fur et à mesure de ma vie, j'avais le choix entre bien gagner ma vie à la télé ou de la perdre en la gagnant, en suivant la curiosité de mon premier personnage. Donc le premier, c'était Kepler. Son opposant, c'était Tycho Brahe, un prince danois où je découvre que Shakespeare s'en est inspiré pour faire Hamlet. Et leur point commun, c'est qu'ils sont pythagoriciens. Bon, alors je me dis, qu'est-ce que ça veut dire, pythagoricien ? Le théorème, so what ? Et je tombe sur un petit papier signé de Albert Einstein qui dit que être pythagoricien, ce n'est pas être savant, mais autodidacte, comme lui, c'est-à-dire avoir fait des études, savoir compter minimum, avoir de l'imagination, se propulser dans sa propre imagination et de ce fait Eh bien, voilà, je suis allée recontacter ma banque. Je suis tombée au RMI, et j'y suis restée 3 ans, pour écrire Pythagore, parce que je l'ai suivi de Samos en Crète. C'était un petit peu dans le désordre, un peu en Irak, un peu en Italie. Et j'ai fait un livre qui est inspiré par un voyage réel. Je me suis aperçue, je vais faire court, mais que, au fond, tous les héros de l'esprit laissés dans l'anonymat parce qu'ils n'ont pas soigné leur pub de leur vivant et après ils n'ont pas eu d'attaché de presse. Donc je me suis rendu compte que tous les gens que j'aimais bien étaient souvent des autodidactes et qu'ils se disaient humanistes ou simples personnages. Qui a fait ressurgir Pythagore en France? C'était Rabelais. Donc je me suis intéressée à Rabelais. Mais qui aimait aussi Pythagore et Rabelais? Cervantes. J'ai fait un livre sur Cervantes. Ça m'a amené à faire un livre sur André Vézal, qui avait fait médecine avec Rabelais.
Vous jouez au marabout, en fait.
Oui, bout de ficelle. Voilà. Et Rabelais m'a amené à Marguerite de Navarre, parce que c'était son amant secret et qui s'écrivait des SMS par livre interposé. Et voilà, j'aimerais avoir 10 vies pour continuer, parce qu'ils me sont plus contemporains que certains faiseurs d'aujourd'hui.
Mathieu Denain, je pense que, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Barthe-Capuçon, mais il y a des points communs entre vos livres, même si on est à des siècles d'écart. Et Olivier parlait de la superstition et de la présence de la religion aussi. C'est quelque chose qui habite également vos deux romans, sous des formes parfois extrêmement surprenante. Je me souviens de certaines scènes dans Saltarello où il y a quelques personnages en couleur, mais même vos béguines, et en particulier les deux qu'on va suivre le plus, il leur arrive quand même des trucs assez particuliers.
Hein. Oui, en fait, pour moi, un roman historique, ça doit d'abord être un roman qui ne peut se passer que à l'époque où il s'inscrit dans le roman. C'est-à-dire que ça ne doit pas être une histoire qui est, je dirais, transposable aussi facilement que ça à une autre époque ou même dans le contemporain. Je pense que c'est ça qui fait la force du roman historique, c'est que cette histoire que je raconte, elle n'a pu se passer que en 1409, en l'occurrence, parce qu'il y avait ce contexte en fait de, je dirais, politico-religieux très particulier du début du XVe siècle, auquel, en fait, on a évoqué un peu tout à l'heure le statut des béguines. C'était des femmes qui étaient... En fait, il y a eu 2 âges d'or du béguinage. Les béguinages qu'on peut voir encore aujourd'hui en Belgique datent surtout, je dirais, du XVIe, XVIIe siècle, parce que c'est des constructions en briques, etc., qui sont restées. Mais les béguinages dont je parle correspondent au premier âge d'or des béguinages, qui, lui, date des XIIe jusqu'à la fin du XIVe, début du XVe, moment où ils ont été persécutés très fortement par l'Église.
On les accuse d'hérésie, mais pourquoi est-ce qu'on les accuse d'hérésie d'ailleurs?
Parce que c'était bien pratique de les accuser d'hérésie, parce qu'en fait c'était des femmes insoumises qui d'une part étaient des femmes laïques, parce qu'elles ne prononçaient pas de vœux, et donc elles ne pouvaient pas recevoir d'ordre de supérieurs, des pères de l'Église. Et d'autre part, elles avaient acquis au fil des temps, au fil des années, des avantages commerciaux pour travailler, parce que c'était des femmes qui travaillaient, et donc qui avaient en quelque sorte la possibilité de vendre leurs produits sans taxes et faisaient de la concurrence déloyale aux marchands. Et donc la société civile voyait d'un mauvais œil cette concurrence déloyale, et la société religieuse voyait d'un mauvais œil ces femmes qui ne se soumettaient pas aux ordres religieux. Donc du coup, l'ensemble leur est tombé dessus finalement au début du XVe siècle. Alors il faut savoir que ça, Il y avait des béguinages dans toutes les villes du nord de la France, le long du Rhin et en Belgique, et que ça pouvait représenter jusqu'à 10% des femmes dans certaines villes, c'est-à-dire que c'était vraiment énorme. C'était une très grande partie de la population féminine qui se regroupait en béguinage à cette époque-là. Et donc le mouvement, en fait, c'était pas vraiment une chasse aux sorcières, même s'il y a eu vraiment des procès, des bûchers, des attaques systématiques, précisément au début du 15e. Et juste un mot pour en fait, comment moi j'ai choisi cette période, c'est que sachant que c'était la fin de l'âge d'or du béguinage, j'ai trouvé dans les archives de la ville de Douai, justement, une lettre du duc de Bourgogne qui plaçait un béguinage en particulier, le béguinage du Champfleury, donc dans lequel se place mon roman, qui plaçait ce béguinage sous la protection du duc de Bourgogne.
Parce qu'en plus, il y a un jeu d'alliance politique derrière, voilà, qui se passe.
Donc il y a la grande histoire qui est un peu le contexte historique et qui permet de comprendre un peu ce qui se passait à l'époque. Mais moi, ce document m'a interpellé parce qu'il ne correspond pas du tout à la situation géopolitique de l'époque. Et je me suis dit, si le duc de Bourgogne a écrit un document pour protéger un béguinage, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Donc voilà, c'est ça le point de départ, en fait, de mon roman. C'est un document qui ensuite ouvre la porte à toute la fantaisie.
IE. Puisque ici, on parle beaucoup de fantaisie avec un Y ici. Béatrice Nicodème, vous aviez envie de parler de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça vous est venu?
Oui, en fait, ce roman-là, c'est le deuxième, parce que j'espère qu'il y en aura un troisième, roman sur la Seconde Guerre mondiale. Le premier se passait en France, il se passait à Nantes, et en fait, c'était lié à des souvenirs, non pas personnels, mais de mes grands-parents qui l'ont vécu à ce moment-là, et notamment les deux grands bombardements de Nantes en septembre 1943. Et donc, quand j'étais enfant, j'ai entendu des récits sur cette période-là, très vivants et très bouleversants pour un enfant. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire un roman qui se passe à Nantes, effectivement, en 1943. Et en me documentant justement pour écrire ce roman, j'ai découvert qu'il y avait eu un service créé par Churchill qu'on connaît relativement peu en France. On commence quand même un peu à en parler.
Ça commence à venir, il commence à y avoir pas mal de livres qui en parlent.
Oui, ça commence, mais à l'époque, où, ça fait au moins 6-7 ans que j'étais tombée dessus, je ne savais pas du tout que ça existait. Le SOE, avec mon accent, Special Operations Executive, qui avait été créé par Churchill et qui formait des agents secrets, en fait, avec différentes sections. Donc, il y avait une section française et ces agents étaient parachutés en France avec faux noms, faux papiers, faux métiers, enfin, tout ce qui veut dire que s'ils étaient arrêtés, ils étaient carrément condamnés d'office comme terroristes, et pour aider les résistants à recevoir des armes, à faire le lien entre des réseaux, etc. Et beaucoup d'agents dans la section française, il y a eu 39 femmes, dont certaines étaient très jeunes, la plus jeune avait 19 ans, ce que j'ai trouvé assez impressionnant, parce qu'ils vivaient en Angleterre, dans un pays qui n'était pas sûr, évidemment, où la vie était difficile, mais ce n'était pas comparable avec la France, et aller s'exposer à se faire parachuter en France à 19 ans, et notamment, les opératrices radio étaient souvent des femmes, parce qu'elles étaient particulièrement rapides et habiles, et c'était un des rôles les plus dangereux. Donc je me suis passionnée pour cette tranche ces personnes en particulier. J'ai lu beaucoup et j'ai écrit, alors sous forme de roman, j'ai pas repris la vie réelle d'un de ces agents. Je trouve ça très difficile sur une époque proche de faire parler, de faire vivre, d'exprimer les sentiments de personnes qui ont vécu sans savoir si c'est exactement comme ça qu'ils ont ressenti les choses. Donc j'ai imaginé une jeune fille, mais qui vit vraiment comme ont vécu ces agents, et donc qui est parachutée en France dans la Marne. Et voilà, on m'en raconte.
Après, c'est une intrigue.
Alors après, oui, j'ai créé un suspense, évidemment, avec des personnages vraiment qui ont des liens entre eux, et c'est vraiment une histoire, c'est pas un document.
Mais j'imagine que de mettre en scène un personnage qui a 19 ans, comme vous le disiez, c'est aussi quelque chose qui doit résonner pour les générations actuelles.
Je suppose, j'espère, oui. Oui, je pense effectivement que ça peut les toucher particulièrement, si on a un peu d'imagination, de se dire vraiment quelqu'un qui avait mon âge, voilà, a pris ce risque incroyable pour libérer un pays qui n'était pas le sien. Alors c'était évidemment des gens bilingues, hein, qui parlait le français parfaitement et qui suivait une formation extrêmement serrée. Il ne fallait pas qu'en se réveillant en sursaut le matin, il sorte un mot anglais.
Ce n'est pas, vraiment... pas la grande évasion.
Oui, oui, oui. Donc c'était vraiment une formation très, très, très dure et oui, exigeante. Oui.
Anne Golon, votre Angélique...
Vous me permettez de dire que
vous en prie.
Ça m'a passionnée, parce qu'on s'aperçoit que toutes les situations sont passionnantes. Celle dont vous parlez me frappe particulièrement, parce que cette guerre que j'ai connue, c'est en effet terrible. Et d'arriver à vivre caché avec une autre âme, avec un autre corps, un autre cœur, et puis de continuer à suivre cette qu'est l'indication. Enfin, c'est à l'occasion, je lirai votre livre.
Oui. Comment avez-vous travaillé sur ce contexte historique, justement? Comment avez-vous fait des recherches? Je me souviens que dans le premier tome d'Angélique, il y a toute une explication sur la mode de l'époque, avec les rubans, avec, les semelles rouges, si je me souviens bien, où les clans, finalement, sont habillés de façon différente. Et on sait à quel clan appartient tel personnage en fonction de la manière dont il est habillé.
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'à toute époque, la façon de s'habiller est importante. Et de pour des jeunes filles qui entrent dans le monde aussi. Alors, je pense qu'il fallait donner un peu le décor de l'époque. C'est-à-dire les nobles, il y avait tout un monde autour. De brodeurs, de ces modes qui arrivaient, qu'il fallait suivre, ces talons énormes tout à coup. Mais enfin, je ne sais pas, pour Angélique, c'était l'idée de ce développement de son caractère qui m'intéressait dans un monde qui avait ses problèmes et qu'elle devait partager. Comme par exemple, donc, elle avait pour une amie une sorcière et puis également. Elle a été élevée dans un couvent, et là aussi c'était une autre atmosphère dont elle était imprégnée, mais ça ne veut pas dire qu'elle était d'accord avec tout, comme toute jeune fille indépendante.
Oui, elle a un esprit un peu rebelle quand même, Angélique, dès le départ.
Je pense que c'est une jeune fille, je ne dirais pas de notre temps, de tous les temps où il y a des esprits qui se développent dans un contexte difficile, plus ou moins difficile. Donc, c'est ça, c'est un caractère. Bon, mais son père la marie sans lui donner son avis et elle se révolte. Bon, c'est assez normal, mais de ce temps-là, ça ne l'était pas. Ça montre une chose, c'est qu'elle avait ce caractère. Et c'est pour ça que ça a été un peu. C'était pas un modèle, mais.
Mais quand même, un petit peu. Elle a inspiré, plusieurs générations même maintenant.
Je ne sais pas. Je crois que c'est un peu général.
Merci. Tous les gens lui disent, les personnes, parce que Anne est un peu fatiguée, mais on lui a dit encore hier, vous avez sauvé la vie des jeunes, parce qu'elle a un côté très subversif. Ce n'est pas seulement le caractère des jeunes filles qui arrivent. Et le problème religieux est très important dans l'œuvre. Justement, l'intolérance religieuse, la sorcière qui est lynchée, c'est plein de tabous. Elle a l'air comme ça de raconter, c'est un roman.
À l'eau de rose, oui.
Il
y a beaucoup plus de richesse.
Ça dépend des moments de la journée. Mais voilà, en fait, Anne, au tout de même, sans s'en rendre compte, une subversive révolutionnaire, elle a voulu dénoncer les tabous de son époque aussi. Mais avec l'évolution du roman. Excusez-moi si je peux.
Vous en prie, il n'y a pas de souci.
Ce roman a une dimension beaucoup plus importante, justement, parce que les jeunes, même encore aujourd'hui, une jeune fille comme hier, on m'a dit, ah ben viens me. Ah, j'allais enfin de savoir pourquoi on me dit. Vous m'avez sauvé la vie. C'est quand même étonnant quand on a des gens de 20 ans, 30 ans, 40 qui viennent nous dire, vous savez, vous m'avez sauvé la vie. Alors chacun dans son domaine, et ça leur a permis d'un moment de dire, je peux prendre mon destin en main, malgré ce que la société, la famille, le machin, la religion et tout va. Enfin, excusez-moi.
Vous en prie. Olivier Barthe-Cabusson, votre personnage principal est commissaire aux morts étranges. C'est son titre.
Ouais, elles sont parfois même très étranges.
Vous avez sorti ça d'où?
De mon imagination.
Vous m'assurez.
Le commissaire aux morts étranges, et puis, parce que c'est un duo d'enquêteurs, le moine hérétique. On peut se demander même à quel point le moine hérétique, par moment, ne vole pas la vedette au commissaire aux morts étranges de par sa personnalité.
Disons que le commissaire est un peu introverti quand le moine, lui, est beaucoup plus extraverti.
Voilà, le plus jeune est introverti, l'autre non. Donc avant on disait vieux con, plutôt jeune con. Non, mais ils sont très intelligents et très, très sympas tous les deux. Le duo d'enquêteurs, pour moi, c'est l'antagonisme. J'ai fait pas mal de théâtre en amateur et ma prof de théâtre, ça m'a marqué, nous disait toujours quand on donnait une scène un peu trop platement, nous disait pas de théâtre sans conflit. Et voilà. Et pour moi aussi, je dirais, il n'y a pas de roman sans conflit. Et donc, à partir du moment où on a un duo qui est en scène, on a cet antagonisme, cette complémentarité qui joue, et on a toujours cette interaction entre deux personnages, je pense, qui est très enrichissante. Alors, duo d'enquêteurs, mais il y a pas mal de personnages féminins, et un petit peu comme chez Anne, qui sont à la pointe de leur époque, donc en révolte contre leur temps, parce que justement, elles n'acceptent pas le monde que les hommes veulent leur imposer.
Il y en a une ou deux, je leur tournerai pas le dos quand même, hein. Je me méfierai un petit peu.
J'aime bien les femmes fatales, bien un peu garces même, femmes dangereuses par moments. Ça vient un peu, toujours pas de théâtre sans conflit et pas de théâtre sans danger. Donc même chose qui est reproduit au niveau littéraire.
Alors si j'insiste sur ce titre, c'est d'abord parce qu'il frappe l'esprit quand même, commissaire aux morts étranges, mais c'est parce qu'il nous amène dans les trois romans à flirter, on va dire, avec une dimension qu'on pourrait qualifier de fantastique, même si, je ne vais pas en dire trop, mais voilà, on est dans la possibilité de...
Oui, alors c'est vrai que le ou les premiers meurtres dans Casanova et la femme sans visage, c'est une femme qui est retrouvée sans visage, donc pas identifiable. Le second, Messe noire, au début, on retrouve... le corps d'une jeune fille dans un cimetière, probablement victime d'un rituel sataniste de messe noire. Et puis dans le troisième, on retrouve des jeunes gens. Il y a des jeunes publics, donc je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, mais c'est pas gore du tout. Hein. Je suggère plus que je ne montre. Hein.
Ouais, il y a une ou deux scènes dans Messe noire.
Ouais,
quand même. Ouais. Oui, si, si, ouais. Ah bon. Si, si. J'en ai une en tête. Je peux pas trop le dire. Non, ça reste raisonnable. Mais enfin, ouais. Une ou deux scènes assez impressionnantes.
C'est pas du tout gore, ouais. pas du tout sanglant.
Henriette Chardac, alors vous nous avez expliqué un peu comment vous progressez dans ces personnalités. On ne va pas parler ici trop de la relation entre Rabelais et Marguerite de Navarre, parce que vous aurez un autre café littéraire autour de l'histoire d'amour, et je pense que ce sera mieux d'y revenir à ce moment-là. Mais est-ce que vous êtes surprise de ce que vous découvrez sur les personnalités sur lesquelles vous travaillez, et comment est-ce que vous nous les présentez à nous, personnalités du XXIe siècle ?
Alors, bien entendu, à vous écouter tous, je pense que c'est ça qui déclenche l'écriture, c'est que le réel est plus riche que la fiction, et que c'est l'imaginaire qui fait vivre cette fiction réelle. Les livres d'histoire, l'école nous a desséché l'âme. On se fait chier. Franchement, si l'histoire, ce ne sont que des dates à apprendre par cœur, ce n'est pas possible.
Vous savez que vous avez au moins trois mères de famille dans l'Assemblée qui vous détestent.
C'est possible, mais... Non, mais je n'en veux pas aux profs d'histoire. Je l'ai été pendant 3 mois en remplacement.
Vous faire pardonner, vous donnerez l'adresse de votre banque à tout le monde.
Oui. Non, ce que je veux dire, ce sont les programmes. On met trop de choses et on ne laisse pas assez de place aux professeurs pour faire partager sa passion. Alors, au hasard, je vais prendre Kepler, le premier. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Mais même un scénariste n'aurait pas eu cette idée. Un enfant naît en forêt noire. Il a de grands yeux, de grandes oreilles, un grand nez. Il est myope, il se cogne partout. Et les parents ont tellement honte de lui qu'il il va devenir porcher. C'est-à-dire qu'il s'occupe des cochons, il roule des tonneaux. Et à l'âge de 5 ans déjà, alors sans aucune racine de réflexion, il se dit en plein mois d'août, pendant qu'il y a un orage, il y a de la grêle qui tombe, il se dit curieusement, pourquoi fait-il chaud et les grêlons sont-ils froids? Ça veut dire que même si le soleil est chaud, l'air est froid, c'est un combat, un conflit, etc. Et il va écrire une lettre sur la prédestination au consistoire protestant de Forêt-Noire pour dire, voilà, moi je travaille dans une taverne, ma mère est considérée comme sorcière, mon père est visiblement un assassin, il ignore que ce n'est pas son père et que son vrai père avait la syphilis, c'est pour ça qu'il a les cristallins abîmés. Et cet enfant qui s'est fait tout seul, on va lui donner une bourse d'études et il va passer le baccalauréat, l'équivalent, à 16 ans et demi, 17 ans. Il se destine à la prêtrise, devenir pasteur. Mais comment accepter qu'un jeune homme devienne pasteur pour parler de Copernic? Parce qu'entre-temps, il a... Bon. Alors, il est détesté des protestants, des catholiques, à part quelques jésuites, et il va aller d'exil en exil. Pourquoi? Parce qu'il défend Pythagore, l'héliocentrisme, Copernic, l'héliocentrisme. Il va arriver à la cour de Rodolphe II, et pour le faire taire, parce qu'on veut le faire taire, bien entendu, c'est un rebelle, on va faire un procès en sorcellerie à sa mère, pour dire... Si sa mère est vraiment une sorcière, c'était la Casaraille du coin, elle faisait des tisanes, elle n'avait rien de méchant, mais on l'accuse de faire voler des crânes, enfin, on l'accuse de tous les maux, que son regard est pire qu'une poignée de main du diable, il ne faut pas la regarder, enfin bref. Et Kepler, alors, quand on tombe là-dessus, et j'arrêterai après parce que je peux en parler des heures, c'est le mathématicien logique qui se dit « Comment défendre ma mère ?» qu'il n'aime pas au demeurant, hein, mais c'est pour le geste. Alors qu'en Allemagne, c'est prémonitoire, on ne brûle pas les sorcières une à une ou deux à deux. Non, c'est bien plus joli par 30, comme une botte d'asperge. Et on leur met de la poudre sous les aisselles, entre les cuisses. S'il en manque une ou deux, on va dans un village... S'il y a un mari jaloux ou autre, ben hop, dénonciation, on les met les 30 et hop, on met le feu et c'est la joie au village. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que va faire Kepler? Il va contacter un ami à lui, Christophe Bezold. Parenthèse, il a écrit une fable sur Rosencrantz, ce qui a donné lieu au Rose-Croix, basé sur une blague d'étudiant. Et il lui dit, voilà, je vais moi-même défendre ma mère et je vais prouver par l'absurde que ceux qui l'accusent de sorcellerie sont eux-mêmes les suppôts du diable, puisque c'est tellement illogique. Et il va gagner. Et encore aujourd'hui, en Allemagne, on donne en exemple la plaidoirie par écrit de Kepler.
Vous me donnez une transition formidable pour poser une question à Mathieu Dénin. Dans Mille Mystiques, on est sur le thème du mysticisme et donc de la recherche de Dieu. Or, on ne cesse, dès la première ligne du livre et jusqu'à la dernière, de ne croiser que le diable.
Mmh. Ben oui, c'est toujours cet antagonisme en fait, qui est un moteur qui alimente en permanence en fait, le récit. C'est-à-dire que la quête mystique des Béguines, c'est quelque chose qui a à la fois donné du sublime et du terrifiant. du sublime, parce que bon, c'est aussi un point fondateur de mon envie d'écrire ce roman. C'est que quand j'ai eu envie d'écrire sur des femmes au Moyen-Âge, je me suis procuré un livre en fait qui est épais comme ça et qui reprend la totalité des textes écrits par des femmes au Moyen-Âge. Donc vous voyez l'épaisseur que je montre avec mes doigts, c'est pas beaucoup. Tout le reste a été écrit par des hommes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu très très peu d'écrits faits par des femmes au Moyen-Âge. Donc je les ai lus et c'est magnifique. Pour l'essentiel, en fait, ce sont des écrits de femmes mystiques. C'est-à-dire, c'est de la poésie, c'est des envolées lyriques, c'est parfois même complètement surréaliste. Hein. Et je me suis dit, mais qui étaient ces femmes mystiques? Comment est-ce qu'elles en arrivaient à ces visions, ces idées, ces choses incroyables? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte qu'elles y arrivaient par des voies assez détournées et souvent même assez monstrueuses en termes limite des pactes avec le diable, des automutilations.
Ce diable, il est omniprésent même dans l'imaginaire collectif de l'époque.
Oui,
pratiquement toutes les légendes ramènent à lui, toutes les anecdotes ramènent à lui.
Absolument. J'ai voulu aussi dans ce roman montrer aussi la part un peu de croyances païennes qui existaient dans les petits villages. Autant Saltarello, mon précédent roman, c'était vraiment un roman de ville qui se passait dans le cœur de Paris, dans le quartier de la Boucherie. Autant celui-là, j'ai voulu qu'il se passe à la campagne. C'est pas facile de se documenter sur la campagne au Moyen-Âge parce qu'il y a vraiment très très peu de sources. Donc là, je me suis un peu rapproché d'historiens et d'experts sur le sujet pour avoir vraiment des éléments précis. C'était pas forcément évident. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait des croyances populaires très fortes qui existaient, qui se racontaient surtout de mère en fille, en fait, et qui étaient des histoires, des anecdotes où le diable avait souvent la part belle, en fait.
Béatrice Nicodème, pour terminer cette table ronde, puisqu'il va déjà être l'heure, on serait bien resté plus longtemps, mais enfin, laisser la place. Vous travaillez là sur, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'époques différentes qui ont été plus ou moins traitées, mais vous revenez vers cette Deuxième Guerre mondiale sur laquelle il y a une quantité industrielle de romans, de livres et autres. Comment est-ce que justement vous est-ce qu'il y a un petit défi aussi de se dire tiens, ben voilà, moi aussi je vais parler de ça?
Non, ça fonctionne jamais comme ça. C'est vraiment quand je choisis une époque, c'est vraiment parce que j'ai envie de m'y plonger, j'ai envie de lire dessus, d'apprendre le maximum de choses et de la vivre par l'imagination, de la revivre par l'imagination. Non, c'est vraiment dans ce sens-là. Bon, là, ça m'a intéressé particulièrement parce que, effectivement, c'était un aspect relativement peu connu. Donc, et d'autre part, je suis très attirée par tout ce qui vient du Royaume-Uni. Donc, tout de suite, ça fait tilt quand j'ai vu ça. Et au cours de la documentation, j'ai découvert qu'il y avait eu, alors ça par contre c'est très connu, qu'il y a eu des doutes sur la disparition de certains réseaux de résistance, où on s'est demandé s'ils n'avaient pas été sacrifiés dans le but de faire passer une fausse information aux Allemands, c'est-à-dire qu'on leur faisait croire à eux qu'il y aurait un débarquement dans le Pas-de-Calais, et s'il y avait un traître parmi eux, on laissait faire et on se disait, il y en a bien qui vont parler quand ils seront interrogés. Et un renseignement obtenu sous la torture, les Allemands vont y croire. Donc on s'est demandé s'il n'y a pas eu des réseaux qui ont été sacrifiés uniquement pour donner de fausses informations aux Allemands.
Une grosse guerre d'information et d'intox.
Et j'ai utilisé, en transformant, en donnant un autre nom de réseau et en déplaçant les choses, mais j'ai utilisé ces faits-là que je trouve assez terribles pour les gens qui étaient engagés. De découvrir tout d'un coup qu'ils avaient peut-être, au moment de l'arrestation, au moment des interrogatoires, de découvrir que peut-être ils avaient été sacrifiés par leur chef, simplement pour faire passer une fausse information. Donc voilà, tout ça m'a beaucoup frappé et c'est ce que j'ai essayé de raconter.
Voilà, on arrive au terme de cette rencontre. J'espère qu'on a pu vous montrer toute la diversité qu'il peut y avoir dans le roman historique, qui finalement est un terme très large. Qui est plein de sous-genres, qui est plein d'époques différentes, de personnalités. Vous voyez qu'on peut aussi bien avoir des personnages sortis de l'imaginaire des auteurs comme des personnages qui ont réellement existé mais qui ont des vies extraordinaires finalement. Et voilà, je vous invite à venir retrouver maintenant sous la bulle du livre les différents auteurs présents, à continuer la discussion et à découvrir également leurs ouvrages. Merci beaucoup. Merci.